Radio J.
Livre au Café des Psaumes.
Radio J.
Bonsoir, bienvenue à l'émission Livre au Café des Psaumes, ici en Café Jelkov. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Levana Frank, spécialiste de l'histoire de la Shoah, chercheuse à Yad Vashem. Et nous la recevons aujourd'hui pour un livre que nous attendions depuis longtemps, « Sois fort et courageux », le mouvement Hachomer Hatzair en France, 1930-1970, 3 points de suspension, aux éditions Morechet. Alors cet ouvrage présente donc l'histoire du mouvement de jeunesse Hachomer Hatzair, la jeune garde, dont la mémoire se perd malheureusement, alors qu'on méconnaît sa contribution à la création de l'État d'Israël, mémoire qu'il est indispensable de rappeler aujourd'hui. On sait que la Hachomer Hatzair est né en 1913 dans la fusion de mouvements sionistes, scouts, socialistes. On sait qu'il se serait répandu de Vienne vers plusieurs noyaux en Galicie, mais on ne sait rien de la France avant que Levana Frank ne s'y penche. Alors, Levana Frank, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Alors, quelles sont vos sources, de quoi vous avez disposé pour cet ouvrage conséquent de presque 400 pages? Combien d'années avez-vous passé dans les archives de Hachomer Hatzair?
Oh, dans les archives même, j'ai passé 2 à 3 ans, mais j'ai commencé par récolter des témoignages. Mon premier témoignage a été celui de la fille Monique Brimbaum Weintraub, la fille d'un des membres de la Hachomer Hatzair qui a été très actif pendant la guerre et qui malheureusement a été arrêté, déporté sans retour. Donc j'ai commencé à les interviewer pour savoir, pour connaître le parcours de ses parents, Léa et Jacques Weintraub. Et ensuite, par hasard, on m'a demandé de faire la notation scientifique d'un corpus de lettres, une correspondance qui a été menée pendant la guerre entre la Hachomer Hatzair de France et la Hachomer Hatzair de Suisse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, dès le début des hostilités, les cadres du mouvement Hachomer Hatzair ont décidé de créer un comité de coordination qui a maintenu le contact avec tous les mouvements de jeunesse de l'Hachomer Hatzair dispersés en Europe occupée. Alors ils ont mené d'abord une correspondance entre la Suisse et la Pologne, ensuite la Suisse, la Slovaquie, la Hongrie, et aussi la Suisse, la Belgique et la France.
Voilà, alors on va entrer dans le détail, mais avant tout, Levana Frank, on vous a demandé, qui vous a demandé et pourquoi vous?
Oui,
finalement.
Alors, bon, parce que cette correspondance, elle s'est menée en différentes langues, en allemand, en italien avec les pays, avec l'Italie, et en français pour la Belgique et la France. Comme moi, j'étais historienne reliée à Morechet d'une manière ou d'une autre, quand ils ont voulu publier, Morechet, quand a voulu publier cette correspondance en hébreu, elle est sortie d'ailleurs en 2019, il y a eu 2 volumes de publiés, il y en a un troisième qui est en route pour vous dire l'ampleur de cette correspondance, c'est des centaines de lettres qui ont été publié en partie et qui nécessitait une annotation scientifique. Donc j'ai travaillé sur ce corpus et j'ai découvert que la Hachomer Hatzair, pendant la guerre, avait une histoire. Ça avait existé, bien que de façon restreinte. Elle avait une histoire et comme j'avais déjà les éléments pour la période de la guerre, je me suis dit je vais fouiller un peu avant, je vais fouiller un peu après. Ça, c'est dans les archives de Morechet. Il y a eu une énorme correspondance des rapports, des programmes de travail, des plans de fêtes.
Des photos,
il y a des photos, oui, il y a des tas de choses.
Il y a
le journal des Bogrim de la Hachomer Hatzair, la Pidim, dont certains exemplaires ont été publiés déjà avant-guerre et ensuite la publication a repris dans les années 50 jusque dans les années 70. Ce sont des sources énormes. qui sont le trésor de tout historien. Personne n'avait déjà avait travaillé sur ce sujet, sur ces sources. Donc je me suis donné un vrai plaisir à dépouiller tout ça.
Oui, alors voilà. Donc en fait, beaucoup d'archives, beaucoup de photos, beaucoup de documents, beaucoup de personnages. Tout ça dans ce livre. Mais peut-être qu'on pourrait reprendre étape par étape la création du mouvement en France dans les années 30. Comment ça se passe ?
Oui. Alors bon. Il y a deux origines du mouvement de la Chomère HaTzaïr en France dans les années 30. Il y a d'abord des étudiants ou des jeunes venus de l'Europe de l'Est, de Pologne, de la région de Lvov, le berceau de la Chomère HaTzaïr en Pologne, c'est en Galicie, ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, autour de Lvov. Pendant la Première Guerre mondiale, vu les dégâts et la destruction de nombreuses communautés juives, des familles avec des membres de la Chomère HaTzaïr ont émigré vers Vienne, et de Vienne le mouvement s'est dispersé dans toute l'Europe après la guerre. Donc il y a cette origine de l'Europe de l'Est, mais il y a aussi une origine tunisienne. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le mouvement en Tunisie a été créé en 1929, donc un peu avant celui de France. Et des beaugrimes du mouvement de... Beaugrimes, je dis, c'est les cadres. Hein,
oui, oui.
Des beaugrimes du mouvement de Tunisie sont venus faire des études à Paris. Et il y a eu cette rencontre entre les Tunisiens et les Polonais, plus ou moins, et ils ont décidé de reconstituer le mouvement Chomère HaTzaïr en France à base d'un petit groupe qui s'était scissionné des éclaireurs et israélites de France.
Qu'est-ce que leur avaient fait les éclaireurs israélites de France ? Pourquoi cette séparation ?
Oui. Alors, ça n'a pas toujours été la bonne entente entre les deux mouvements, à savoir que les éclaireurs...
Il y avait un clivage social, dire.
Non, les clivages étaient à plusieurs niveaux. Il y avait le clivage au niveau social, effectivement, parce que les EI recrutaient dans la bourgeoisie française, juive franco-française.
Ils étaient israélites.
Ils étaient israélites, voilà. Leur serment, c'était au judaïsme, à l'État, à la patrie, donc très franco-français, dans l'esprit du judaïsme consistorial. Et la Chomère HaTzaïr a recruté dans les milieux immigrés, ensuite des milieux laïcs, plus ou moins orientés vers la gauche. Et ça n'a pas du tout marché. D'abord, le siège des EI, c'était très rapidement l'avenue de Ségur, les beaux quartiers. Et les membres de la Chomère HaTzaïr dans des milieux immigrés, c'était Belleville, le Carreau du Temple, Pletzl, Saint-Paul. Donc il y a eu même un besoin de délocaliser leur centre. Et voilà, il y a eu une scission, bien que au sein des EI, à un certain moment, il y avait les Transylvaniens qui étaient des anciens de la Chomère HaTzaïr de Roumanie, qui avaient une orientation un peu plus sioniste. Et au sein du judaïsme alsacien, il y avait aussi une orientation, une aile sioniste exprimée par Simon Levit, qui a fondé le mouvement de la jeunesse sioniste pendant la guerre. Mais le sionisme n'était pas dominant au sein des EI. Il a commencé à prendre un peu plus d'ampleur pendant la guerre et au sorti de la guerre.
Oui, oui.
Mais dans les années 30, ce n'était pas du tout...
Voilà. Alors donc, une composante sioniste exprimée dans un slogan « Sois fort et courageux » qui sort quand même du Tanakh.
Oui, du Tanakh, bien sûr.
Voilà.
Oui.
Mais en même temps, une politisation dans les années 30, 34, à l'époque du Front Populaire. Vous racontez ça.
Oui, oui, au fur et à mesure. Le mouvement Chomère HaTzaïr, au départ, il a été créé en 1913, c'était un mouvement scout avec orientation sioniste, qui copiait le modèle du Hachomer dans le Yishuv, constitué autour de groupes d'autodéfense. Et ensuite, avec les différentes associations, le Tzehir et Tzion et le Hapoel HaTzehir, ils ont commencé à prendre une orientation sioniste-socialiste plus marquée. Mais c'était vraiment plutôt sioniste national que socialiste. Et puis, au fur et à mesure, en France, avec le Front populaire, sans aucun doute, le socialisme a pris le dessus. Et pendant la guerre, bien sûr, quand l'Union soviétique a mené le combat principal contre le nazisme, la Chemera Tzahir s'est vraiment orientée vers...
Mais restons quand même au Front populaire. Oui,
Oui.
Vous citez Henri Boulafko, bien sûr. Qui a été quand même un témoin
témoin très très actif.
Voilà, de cette période-là et de cette période où effectivement la Chomère se rapproche des événements qui sont liés au Front populaire en 1934.
Ils sont très impliqués dans tout le mouvement du Front populaire, à promulguer les acquis sociaux que propose le Front populaire, ça bien sûr. Et puis, avec le Front populaire, il y a aussi la guerre d'Espagne qui nécessite...
Voilà. Donc il y a des volontaires qui partent en Espagne.
Oui, il y a beaucoup de volontaires de la Chomère, peut-être pas de France, mais en gros, il y a beaucoup de la Chomère de Pologne, de la Chomère à Tzahir de Palestine. Il y a beaucoup de candidats. Surtout, à partir de 1938-1939, il y a la grande révolte arabe en Palestine. Les Anglais font tout pour limiter l'émigration. Il y a la promulgation des deux livres blancs qui limitent l'immigration. Donc, à la Chomère HaTzahir, la Palestine, c'est loin. C'est très difficile d'avoir des certificats pour émigrer. Et il s'intègre beaucoup plus dans le mouvement social qui se développe sur place. Et avec le mouvement des auberges de jeunesse et les grandes sorties, le retour à la nature prend ce qui était déjà dans l'idéal de la Chomère HaTzahir, prend effectivement la possibilité de s'appliquer.
Voilà, ça c'est effectivement l'idéal scout aussi qui est mis en œuvre. Mais alors, passons maintenant à la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même une grosse partie de votre livre.
Oui, mais j'ai deux chapitres et j'ai commencé par ce livre par ces deux chapitres-là.
Voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que deviennent les membres de la Chomère pendant les périodes d'arrestation du port de l'Étoile jaune? Votre source, c'est le fameux livre de vie Buch von Leben,
oui.
Un journal qui est publié par Henri Boulafko, encore lui.
Oui.
Voilà. Et pourtant, il y a aussi des sorties. Alors, on est étonné de voir des sorties en 41, en 42 de la Chomère.
Oui, ça, c'est absolument
des photos
étonnant.
Étonnantes.
Oui. Alors, ça, c'est un des aspects
étonnants. Il y a même une fête de Pourim.
Il y a une activité débordante. Moi, la photo qui m'a le plus impressionnée, c'est une photo de la sortie à Villeneuve-Saint-Georges avec les tentes, le soleil rayonnant, les Khavirim tout souriants. Et c'est juillet 1941.
Voilà.
C'est juillet 1941, quand en Europe de l'Est commencent déjà les exécutions de masse et la persécution des Juifs à outrance. Ils n'ont pas trop conscience de ce qui se passe dans l'Est, ça c'est sans aucun doute. Et ces photos, elles montrent la possibilité de sortir, de circuler, de pratiquer le scoutisme, montrent qu'en France, le rythme de la Shoah évolue entièrement de façon tout à fait différente que celui d'Europe de l'Est.
Voilà.
Et le grand changement, c'est à partir du moment où il y a l'imposition du port de l'Étoile jaune, en juin 1942.
Voilà.
Très tard.
Hélas, on ne le voit pas sur la photo. Et donc, il y a des actes de résistance.
Il commence, la Chomère HaTzahir, ça commence par la grande dispersion de l'Exode.
Oui, voilà.
Et ensuite, ils reviennent en juillet 1940, oui, puisque l'invasion de l'armée allemande, c'est le 10 mai 1940, ils reviennent et déjà, ils se heurtent au premier statut des Juifs, l'enregistrement, l'aryanisation des biens. Mais on a l'impression que les jeunes de la Shomer HaTzair ne sont pas directement affectés. Ils s'engagent dans les rangs du comité de la rue Amelot.
Voilà.
Ils tentent d'abord de reconstituer le mouvement de jeunesse sous le patronage de la rue Amelot. Et très rapidement, avec les premières rafles, surtout la rafle du billet vert de mai 1941, d'abord il y a des arrestations au sein des membres de la Shomer HaTzair. Les principaux dirigeants, Jacques Weintraub,
voilà,
et Victor Sulapeur et André Boudin et d'autres, sont arrêtés, internés au camp de Pithiviers. Et ils sont candidats à la déportation, directement, mais par contre ils ont pris une décision très claire, c'est de s'évader. Donc ces trois-là arrivent à s'évader un petit peu plus tard dans le courant de l'année 41, mais ceux qui restent dans le mouvement s'intègrent dans l'activité de la rue Amelot à plusieurs niveaux. D'abord il y a Berdisman qui s'occupe du service enfant sous le patronage de Yehuda Jakubowicz. Il faut très rapidement prospecter les campagnes, chercher des planques pour les enfants, leur trouver des familles d'accueil. À partir du moment où les pères ont été arrêtés déjà en 1941, et avec le début des rafles, bon, il faut évacuer. Et puis, il y a le service de faux papiers que Bulavko développe très rapidement avec Bert Zisman. Ce sont des membres de la Shomer HaTzair qui commencent ce travail relativement très tôt. À récolter des cartes vierges et d'enregistrer des juifs sous des faux noms, des fausses origines, surtout des villages qui ont été bombardés, qui n'existent plus. On ne peut plus vérifier l'origine des personnes. Donc ça, c'est une très grosse activité. Mais en parallèle, ils continuent leur sortie régulière. C'est le livre de vie, c'est le journal de bord de ce groupe de la Shomer HaTzair, mais ce n'est pas seulement la Shomer HaTzair, c'est Poale Tzion de gauche, des gens affiliés à la gauche. C'est donc, ils ont constitué ce comité d'entente sioniste-socialiste qui réunit un groupe de jeunes adultes qui agissent sous l'égide du comité de la rue Amelot et s'intègrent dans le travail clandestin qui commence à se développer au sein de la rue Amelot.
Voilà, et de la rue Amelot aussi. Bon, alors il y a un couple un peu phare qui est Léa et Jacques Weintraub,
oui,
vous en avez parlé.
Oui.
Et eux, finalement, en les suivant, on a un petit peu toute l'épopée de ce groupe, puisqu'en fait, ça va migrer aussi vers la Suisse.
Oui, alors, à partir du moment où commence la grande rafle du Veldiv, il y a une dispersion des membres de la Shomer HaTzair, ça c'est clair. Il y a Bulavko qui reste sur place et qui continue son activité clandestine jusqu'à son arrestation en novembre 1942. Sinon, les trois qui ont été arrêtés et sont à Pithiviers réussissent à passer en zone libre. C'est Jacques Weintraub qui s'évadera et sera rejoint par Léa, sa femme, et Victor Sulapeur et André Boudin. Alors, en fait, ils se dispersent eux aussi et les rangs de la Shomer HaTzair éclatent. Les rangs du comité d'entente sioniste-socialiste éclatent et ils se dispersent. Jacques Weintraub et Léa se replient sur Nice Et c'est eux qui organisent le GDOUD MJS, le mouvement de jeunes sionistes à Nice, qui c'est un groupe très important. Je crois qu'il regroupe presque une centaine de personnes. Léa s'occupe du service des jeunes du comité d'entraide aux réfugiés au sein du comité du bouchage. C'est le siège de l'entraide juive à Nice. Et Jacques, il a déjà, dès qu'il arrive à Nice, c'est en février 42, il a déjà, il s'occupe déjà de placement d'enfants, la distribution de ravitaillement au sein de la communauté des réfugiés regroupés à Nice. Et le drame est aussi...
Il finit par se faire arrêter.
Il se fait arrêter 3 semaines après l'occupation allemande de la zone italienne, puisque Nice est dans la... Il se fait arrêter après avoir mis sur place, en fait... le service de faux papiers, le service de sauvetage des enfants, le service d'entraide à la communauté, la distribution de vivres. Et quand il sera arrêté, il aura mis l'infrastructure qui permettra la continuité du travail clandestin. Et le sauvetage voilà. Très, très important des juifs de la communauté de Nice. Et, oui. Il y a aussi Nice et il y a aussi les centres de résidence assignés un peu plus loin. Bon, une très grosse activité.
Oui, oui, oui. Et donc, le livre raconte tout ça dans le détail.
Et il y a aussi Victor Sulapeur qui fait la même chose en parallèle à Chambéry.
Voilà, voilà. Donc, ouais.
Et il y a un petit groupe à Grenoble avec Frida Wattenberg qui a travaillé au mémorial et qui va rejoindre les rangs de la Chomerat Zahir tout de suite au lendemain de la guerre avec un petit groupe de 3 ou 4 femmes. Du MJS de Grenoble.
Oui, voilà. Et alors, on arrive effectivement dans l'ouvrage à un grand nombre de personnes qui sont citées. Mais heureusement, il y a un index et on peut les suivre grâce à cet index.
Ah, oui,
et de page en page dire... voilà. Alors, on va peut-être partir pour la troisième partie, après-guerre. La reconstruction du mouvement, Léa Weintraub revient à Paris, comment ça se passe? Quelle jeunesse retrouve-t-elle?
Alors, Léa, le jour de l'arrestation de son mari, Jacques Weintraub, comme elle était recherchée, parce qu'elle avait distribué des vivres dans les wagons de déportés en partance vers Nancy. Elle était recherchée. Elle a tout de suite pris ses clics et ses claques. Sa fille, qui avait moins d'un an, Monique, Myriam Brimbaume aujourd'hui. Et ils se sont enfuis dans la nuit à pied en Suisse. Et Léa a été mandatée par le mouvement qui s'était restructuré ensuite, a été mandatée pour retourner en France et remettre sur pied la Chomerat Zahir. Alors, la Chomerat Zahir, à l'époque, faisait partie du MJS, ce qui a donné lieu à des tensions entre les deux tendances, la tendance à l'indépendance de la Chomerat Zahir et la tendance à maintenir ce mouvement unifié de toutes les tendances sionistes. Mais ça n'a pas duré, ça a éclaté très rapidement, puisque chaque mouvement a décidé de reprendre sa propre voie, la Chomerat Zahir en particulier, et Léa, à la fois, c'est elle qui achète, par exemple, le local, c'est elle qui le trouve et contribue à l'achat de ce local symbole de la Chomerat Zahir des années 50-60, le 17 rue de la Victoire.
Voilà, adresse
avec
bien connue.
Oui, avec le bureau du MAPAM. Qui,
alors, parti politique israélien. Oui. Qui est aujourd'hui une partie
Oui.
Meretz.
Oui.
Voilà.
Le papa, bon, qui n'existe plus aujourd'hui.
Voilà, on va pas rentrer dans les détails là, de tout ce qui est derrière.
Oui. Elle voulait absolument créer une maison d'enfants. Finalement, il y a deux maisons d'enfants qui sont créées. Une au Chou, ça s'appelle les Choux.
Les Choux, oui.
L'autre à Cantilly. Et la Chemera Tzahir obtient un droit d'entrée dans les maisons d'enfants de Ruelle Malmaison.
Rappelez ce que c'est que les maisons d'enfants, peut-être, pour les auditeurs.
Les maisons d'enfants se sont constituées directement après la guerre pour s'occuper des enfants de déportés qui étaient restés orphelins ou semi-orphelins. Ça, c'est pour la France. Lozé a eu de nombreuses maisons d'enfants de ce genre. Mais la Chemera Tzahir, sa particularité, c'est qu'elle recevait des enfants en transit qui venaient de Pologne ou des camps de personnes déplacées en Allemagne et qui étaient en voie vers la Palestine, clandestinement ou légalement. Mais ensuite, très rapidement, ils ont aussi reçu des enfants venus du Maroc, d'Algérie et de Tunisie et même d'Égypte, des enfants qui ont commencé l'émigration des pays d'Afrique du Nord. Les parents ont d'abord envoyé les enfants et ils transitaient par des maisons tenues par la Chemera Tzahir et autres pour ensuite être orientés vers Israël.
Il y avait les fermes-écoles aussi.
Et il y avait deux fermes-écoles. Ceux qui y sont passés en ont un souvenir absolument extraordinaire, où les jeunes se préparaient pour émigrer et s'intégrer dans la vie dans un kibboutz. Donc ils apprenaient l'agriculture. Il y avait la ferme-école de La Roche, et puis ensuite Z, qu'on a bien connu. C'était le lieu de la Harchara, de la ferme-école, jusque dans les années 70. Et on y passait nos vacances, on faisait les machanot, les camps d'été au sein de la nature. Enfin, ça a été une expérience mémorable pour de nombreux d'entre nous. Là, ça éveille encore des souvenirs importants. Donc, il y avait ces deux archarot qui amorcent les migrations de jeunes au sein de la Chemera Tzahir vers les kibboutzim en Israël.
Bien sûr. Et juste très rapidement, est-ce que ça marchait bien, cette adaptation au kibboutz en Israël? En une minute,
j'appelle ça, moi, le heurt des civilisations. Les mentalités étaient tellement différentes entre les gens formés à l'école républicaine de France et les mentalités des paysans soldats qui ont contribué à la création de l'État, de l'agriculture, de l'armée en Israël. C'est deux mentalités qui n'ont pas toujours été compatibles. Mais il ne faut pas exagérer. Au départ, je pensais que la Aliyah des Khavirim de France a été un échec total. Mais on m'a fait remarquer que ce n'est pas du tout vrai pour les premiers groupes qui sont partis de France, qui étaient constitués en grande majorité d'enfants de la Shoah, des gens qui avaient vécu les persécutions, la décomposition des familles, la déportation. Et pour eux, la signification de l'État d'Israël et leur volonté de contribuer à la création de kibboutzim était 10 fois plus grande que celle des jeunes qui sont partis à partir des années 60, qui ont le baby boom, qui ont grandi dans une société de consommation à outrance et qui l'économie florissante et tout, qui était plutôt un peu enfant gâté et pour qui la volonté de s'accrocher était différente.
Oui, et donc dans toute cette dynamique, vous parlez aussi évidemment des formes de tradition, de transmission du judaïsme, à la fois de la mémoire de la Shoah, de toutes les fêtes juives typiques de la Shomer HaTzair, la commémoration de l'héroïsme du ghetto de Varsovie, et aussi le Seder de Pâques, et puis même des raccourcis sur la révolte de Varsovie comparée à celle de la Commune de Paris. Vous parlez aussi de la Shomer HaTzair à l'époque de mai 68, bien entendu. Je voudrais juste, en une demi-minute, revenir sur votre conclusion, sur lorsque vous dites que finalement la Shomer HaTzair, ça a été un vecteur d'intégration dans la société française plutôt qu'à Israël, mais... En même temps, on voit la photo de la quatrième de couverture et on voit encore que la Shomer HaTzair existe en France.
Existe. Je ne sais pas si la vocation originelle de la Shomer HaTzair, qui était l'émigration, la réalisation, le kibbutz et une société socialiste, je ne sais pas si ce sont des idéaux qui sont encore d'actualité, mais je m'imagine que la jeunesse d'aujourd'hui a assez d'objectifs à prendre dans leur activité. La preuve, c'est que la Shomer HaTzair existe encore et qu'ils maintiennent leur spécificité de sionisme socialiste.
Voilà. Très bien. Merci, Janine Levana-Frein, pour cet ouvrage. Sois fort et courageux. Chazak ve'ematz.
Chazak ve'ematz.
Voilà, le mouvement Shomer HaTzair en France, 1930-1970, aux éditions Moréchette,
oui.
Et qu'on peut se procurer où ?
On peut se procurer au siège de la Shomer HaTzair, au 10 rue Saint-Claude. Il y a une permanence tous les matins et aussi dans l'après-midi. Donc, pour ceux qui voudraient connaître plus en profondeur ce mouvement auquel je suis personnellement très attachés peuvent justement l'acquérir au siège de la Shomer HaTzair.
Merci Levana, à bientôt.